abolir le no-fault. À partir du moment où on vous a dit le no-fault, ça va être impossible, vous avez fait ce que tout homme qui a des valeurs fondamentales aurait fait, c'est-à-dire prendre vos clics, vos claques et sacrer votre camp parce que vous étiez lancé en politique pour ça. Actuellement, ce qui se passe avec le fameux troisième lien... Là,
quand me lève.
François Legault qui, si on en croit le maire Labeaume, là, mettons qu'on en croit le maire Labeaume parce qu'hier, tout le monde en parle, ça a l'air que ça fait des années et des années que c'est prévu qu'on n'en aura pas de troisième lien. Et là, Geneviève Guilbeault, la semaine dernière, qui dit non, il va en avoir un, mais ce ne sera pas pour les automobiles, ça va être uniquement pour ce qui est du transport en commun. Il y en a une couple qui ont avalé la gorgée de travers et les gens qui sont autour de la région de Québec, les députés de la Coalition Avenir Québec, on en compte à peu près une quinzaine, sont tous pour la plupart extrêmement déçus.
Oui, mais tu sais, la question qui se pose, pour moi, c'est le troisième lien, c'est le dossier de fond, on s'entend? Troisième lien, promis,
oui.
Ça c'est le dossier de fond. Mais moi, c'est pas le troisième lien. La question se pose évidemment parce que c'est un projet de transport important à Québec. Mais la question, moi, qui me choque, là, puis ce sur quoi tout le monde devrait être d'accord, c'est que c'est une promesse rompue.
Oui.
À 6 mois de l'élection. On n'est pas à 3 ans, là. À 6 mois de l'élection, il n'y a pas vraiment de changement au niveau du flux de trafic. La pandémie a eu lieu en 2020. Ça fait déjà plus de 3 ans que ça a commencé. Ça a duré une couple d'années, mais c'est fini.
Le trafic commence à revenir.
Le trafic commence à revenir, puis il va probablement revenir en force, puis il va probablement être plus important dans une couple d'années parce que les gens vont reprendre des habitudes. La population grossit, les gens ont des autos de plus en plus jeunes. Mais moi, ce qui m'écœure, c'est la promesse rompue. Moi, je suis pas capable de comprendre qu'un parti politique sérieux s'engage dans un projet aussi important... confirme, tous les débats télévisés ont eu lieu là-dessus, tu te souviens?
Mm-hmm.
On pouvait être d'accord ou contre, mais la promesse était là, puis c'était clair. Et là, ils décident de backtracker avec Mme Guilbeault qui arrive là, l'air solennel, toute seule, le gars est même pas là, mépris total. Moi, je trouve là, que c'est quand même lui qui a défendu le dossier dans tous les débats télévisés, c'est pas Guilbeault qui était là.
On voulait pas le salir, là.
Il envoie Guilbeault, il vient pas, donc première marque de mépris. Deuxième marque de mépris, c'est que ces députés l'ont appris, ça blottit, le lundi, alors que l'annonce était faite le jeudi, mais que dès mardi, c'était coulé dans les médias. Et puis, il y a minimalement au moins 4 sièges, à mon avis, que la CAQ n'aurait pas eu, mais ils voulaient faire élire leurs 2 vedettes, là, sur la Rive-Sud, là, Drainville puis Biron. Là. Biron qui a menti 2 fois. Biron, là. Martine Biron, Radio-Canada. Elle a menti une première fois en adhérant à ce projet-là parce que pendant qu'elle était journaliste, elle n'arrêtait pas de dire que c'était pas sérieux. Donc, elle a menti une première fois en disant qu'elle était d'accord pour se présenter en politique. Puis elle a menti une deuxième fois en ne livrant pas l'engagement parce que tout le monde est menteur là-dedans. Là. Ouais. C'est pas juste, c'est le parti qui décide de reculer. Donc, tous ceux qui endossent ce recul-là sont des menteurs, à mon avis. Des gens qui n'ont pas respecté leurs paroles. Et en droit civil, là, toi, là, tu promets quelque chose à quelqu'un puis tu livres pas, là, t'es poursuivi puis t'es condamné.
Ouais.
Alors, les règles de base d'équité, de justice sont pas respectées. C'est pas parce que t'es en politique que t'as le droit de renier ta parole.
Ouais.
Et moi, je te jure, le cœur me lève. Il y a au moins 4 comtés, les 2 Beaucerons qui n'auraient pas d'affaires là, puis les 2 sur la Rive-Sud. Éric Kerr, je sais pas, parce qu'il n'est pas tout à fait dans le trajet du troisième lien. Là. Bien que les gens de son comté en auraient profité, mais lui, c'est une promesse qu'il avait faite de longue date avec l'engagement de mettre son siège en jeu. Il devrait s'en aller.
Bien, il devrait s'en aller, mais...
Pourquoi ils s'en vont pas?
C'est une bonne question. Là. Il y a 2 choses là-dedans. T'sais. La première étant, ça aurait l'air, selon des informations de Radio-Canada puis de la presse, que c'est Geneviève Guilbeault qui aurait convaincu le PM avec Fitz, puis l'autre qui est au Conseil du Trésor. Donc, ça a l'air que c'est une idée de Geneviève Guilbeault. Elle est arrivée à la conférence de presse avec ses cartables, alors qu'aujourd'hui, tout est numérisé. Mais comme l'électorat de la CAQ, c'est des gens qui sont un peu plus âgés, ils ont jugé bon de la faire paraître avec ses fameux cartables en disant, regardez, la ministre des Transports a travaillé fort.
Elle a lu beaucoup cette nuit.
Dans cette étude-là, on mentionne que 2022, c'est pas une année qui est très concluante, puisqu'on était dans le retour là, de la COVID, et qu'il fallait compter sur 2022. 2023 au grand complet, donc les 12 mois de 2023, pour voir réellement ce que c'était que l'état du trafic à Québec. Et elle a fait fi de ça. Elle a menti, elle aussi. Là.
Ah ouais, gros.
Sont plusieurs à avoir menti. Et Geneviève Guilbeault aurait tenté... Puis on nous dit que c'est un jeu d'échecs, en fait. Là, puis moi, ça vient pas de moi, cette histoire-là. Ça aurait l'air que Geneviève Guilbeault sait très bien qu'en annonçant cette nouvelle-là, elle nuisait fortement à Bernard Drinville pour ce qui est de ses désirs de devenir un jour premier ministre du Québec. Parce que lorsqu'il y aura une course à la chefferie, ce qu'on sait, c'est que Drinville va être là et Geneviève Guilbeault va être là. Mm-hmm. Donc là, elle annule carrément Bernard Drinville aussi parce que Drinville serait moins fort qu'elle dans la grande région de Québec. C'est ce qu'elle aurait fait comme calcul mathématique. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Mais c'est machiavélique un peu comme façon de faire. Drinville qui regarde au ciel, qui regarde à terre, qui pleure. Moi, toutes ces affaires-là, c'est pas valable. T'sais, si vous me dites que vous regrettez, vous avez
de
la peine...
Des larmes de crocodile.
Devenez indépendant.
Ouais,
ça crée votre parti, là.
Aucune crédibilité. Tu as déjà menti. On ne sait plus quand tu dis la vérité.
Exact.
Devant un tribunal, quand tu mens puis tu te fais vraiment pogner, là, ta crédibilité est anéantie complètement. Ouais. Parce qu'une personne qui a menti puis dont on sait qu'elle a menti, on ne sait plus quand est-ce qu'elle dit la vérité par la suite. Donc, tu évacues le témoignage tout de suite. C'est la même chose en politique. Il a menti. Alors là, qui croire? Et pourquoi le croire le lendemain de son mensonge? Donc, aussi gros, là.
Donc, si on en croit le maire Labeaume, cette décision-là était prise depuis plusieurs années. Il était au courant de ça, le maire Labeaume. François Legault était visiblement au courant de ça. Et on se serait servi de cette promesse-là pour tasser Éric Duhaime, qui était en forte montée dans la région de Québec. Et on s'est dit... T'sais, si on dit que le troisième lien, c'est fini, ça se peut que le Parti conservateur passe. Donc, allons-y avec le troisième lien.
Non, c'est dégueulasse.
C'est dégueulasse. En même temps, c'est de la maudite politique.
Non,
là.
C'est dégueulasse. C'est plus dégueulasse que jamais. Puis après ça, on nous demande de faire confiance, parce que l'exemple vient de haut, là. On nous demande de faire confiance à nos gouvernements, à notre premier ministre, à notre vice-premier ministre, puis un gouvernement qui est élu majoritaire, qui est allé voler des comtés littéralement.
Ouais.
Parce que oui, ils ont empêché Duhaime de passer sur un mensonge, parce que c'est le troisième lien, puis ils l'ont pas fait. Puis moi, je suis convaincu que dans les officines, les stratèges se disaient à l'époque, on vend le troisième lien, on a besoin de ça à Québec, alors on continue de parler du troisième lien. Québec a voté pour le troisième lien. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le troisième lien, surtout sur la Rive-Sud puis en Beauce. Alors, on va chercher ces comtés-là, puis après ça, on fera bien ce qu'on voudra, puis c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors, c'est dans la plus pure tradition politique, la mauvaise politique, et la CAQ vient de tomber là-dedans. Fait que moi, dans mon livre à moi, c'est devenu un parti traditionnel, comme tous les autres, comme Charest qui promettait 5 milliards de baisse d'impôts puis qui n'a pas livré, comme le PQ de Lucien Bouchard qui dit qu'il n'a rien dit sur les fusions municipales en 98, puis le lendemain matin, après l'élection, il mandate Louis Arel pour faire des fusions forcées à grandeur du Québec. Puis la bombe qui fait la morale, là...
Exact,
lui, c'est la même chose. Lui, il a dit on n'en fera pas de tramway, puis le lendemain matin, après l'élection, il décide de faire un tramway.
Ouais.
Alors, c'est quoi l'affaire, là?
Curieusement, ils n'ont pas parlé de ça hier à Tout le monde en
parle. Non, mais moi je m'en souviens, maudit, ouais. Par exemple, madame comment, là, Fredette ou Fréchette, ou je sais pas trop.
Guérette, Anne Guérette.
Anne Guérette, qui disait on veut un tramway. Puis elle était candidate, puis lui disait, on n'aura pas de 39, c'est ridicule, nous autres, on est SRB, puis on va être bon. Puis le lendemain matin, il décide d'avancer avec un tramway. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on a des politiciens qui sont des menteurs, ils ont tous la même maladie, ils ont tous les mêmes habitudes, puis ils finissent tous par nous dire, on va promettre mère et monde, puis le lendemain matin, ils livrent pas. Et moi, ça m'écœure profondément, parce que je me dis que c'est dans les niveaux les plus élevés de l'administration publique. Puis nos enfants, puis nos ados, ils voient ça, puis ils finissent par se dire, ben là, tu sais, payer de l'impôt, pourquoi? Respecter les lois, pourquoi? Nous autres, on doit faire ça, le petit peuple, puis alors que le premier ministre nous met en pleine face. Alors, c'est triste. C'est triste parce que normalement, ils devraient donner l'exemple.
Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, la bombe qui était à Tout le monde en parle, hier, ils ont fait fi de ça, du fait qu'il avait lui aussi réussi à passer aux élections en mentant à sa population. Ça a été la même technique pour Bruno Marchand, en passant, qui a fait une multitude de promesses pour le fameux tramway et finalement, il n'a pas réussi à livrer. Quoique lui, milite encore pour le tramway comme pas possible. C'est rendu le plus vendu au tramway. Puis la CAQ qui fait ça, Sérieusement, Maître Bellemare, c'est assez dur d'essayer de convaincre les gens qui veulent pas aller voter d'aller voter. Là. Puis je sais pas comment Éric Duhaime va faire. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'Éric Duhaime a une stratégie, c'est d'essayer de convaincre des députés déçus de la grande région de Québec pour pouvoir prendre ce député-là, le mettre à sa couleur, puis avoir accès à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il va réussir? Sa deuxième stratégie, c'est de faire une pétition pour qu'Éric Kerr démissionne, puis après ça, ben, qu'on aille en partiel. C'est lui qui est là, qui va se présenter dans le comté d'Éric Kerr si jamais Kerr démissionne. La stratégie est là. Qu'est-ce que ça va donner à long terme? Je ne sais pas. Mais actuellement, c'est particulier ce qui se passe dans le merveilleux monde de la politique, puis les gens sont un peu désabusés de voir tout ce cirque-là. Puis je vais vous dire quelque chose qui m'achale beaucoup.
Les gens de Bellechasse, les gens de Côte-du-Sud, Montmagny, là,
ouais.
Eux autres, là, le troisième lien à l'ouest, là, à l'est plutôt, à l'est. Là, mais que c'était quelque chose de magnifique pour eux autres pour rentrer en ville, là,
ouais.
Plutôt que de faire le grand détour pour aller chercher les ponts. Ces comtés-là sont très pénalisés. Les comtés du sud, moi, il n'y a personne de la rive sud que j'ai rencontré depuis la semaine passée qui n'est pas en furie. Même des gens qui étaient tièdes par rapport au troisième lien, sont furieux de s'être fait avoir, de s'être fait mentir à pleine face, d'être allé voter, d'avoir convaincu des gens, puis d'avoir un résultat comme ça 6 mois après l'élection.
Mais quand est-ce
c'est
que
dur à prendre en maudit.
Quand est-ce que des gens de Québec ont jugé bon de donner leur opinion sur un lien qu'on fait à Montréal, entre Montréal et Laval, ou entre Montréal et la rive sud, ou entre Montréal et la rive nord? Quand est-ce que des gens de Québec, des chroniqueurs, des radios d'opinion, se sont penchés sur les besoins de Montréal d'avoir leur lien? Jamais. Mais de l'autre côté, c'est l'inverse. Ces gens-là se permettent constamment de dire que le futur troisième lien, qui est en fait le deuxième lien viable à long terme, là, à Québec, nous, on n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai de la misère un peu à endurer ça, que des gens qui ne sont pas tout à fait au fait du dossier puissent donner leur opinion sur quelque chose qui se passe à 250 km d'eux. Marc Tanguay, qui est le chef par intérim du Parti libéral, était assis exactement là où vous êtes. Et je lui ai demandé c'était quoi le plan B à partir du moment où le Pompier-la-Porte est fermé pendant quelques jours, parce qu'il y a une catastrophe qui arrive sur le Pompier-la-Porte. Tu sais quoi le plan B du ministère des Transports? Il a pris la position du petit chat dans Shrek. Tu sais, les oreilles qui descendent, là, en se rendant compte qu'il n'y a aucune idée du plan B du ministère des Transports. J'ai dit, parce que de l'autre côté, sur le pont de Québec, les camions ne peuvent pas passer là. Donc, on a uniquement le lien qui est le pont Pierre-Laporte. Le plan B, c'est le pont La Violette à Trois-Rivières. Mm-hmm. C'est un détour de 200 km. Marc Tanguay, qui régulièrement donnait son avis sur le troisième lien comme quoi on n'avait pas besoin de ça, n'était pas au courant du plan B. Et je peux vous dire que quand je lui ai dit ça, son ton a descendu parce qu'il s'est rendu compte qu'il donne son opinion depuis des années sur le troisième lien, puis il n'est pas au courant de comment ça fonctionne à Québec. On en a besoin d'un deuxième lien à long terme pour les services d'urgence, de un, advenant le cas où il y a une catastrophe, et de deux, pour la sécurité des gens de Québec. Là. On a besoin qu'on puisse s'échanger nos services, les hôpitaux, les pompiers, Hydro-Québec. Il faut que ça circule rapidement, là.
Ben oui, j'écoutais des gens, moi, en fin de semaine, je suis allé dans la région de Montréal, j'avais des funérailles là-bas à Saint-Hyacinthe, puis les gens me disaient « Ah, le troisième lien, c'est un projet de fou », puis ça, ouais. Parce qu'en dehors de Québec, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais et puis, sans trop connaître les dimensions du problème, mais moi, je leur disais, ben finalement, au fond, les élections, ça sert à quoi, tu sais? Les élections, qu'est-ce que ça donne, comme disait Yvon Deschamps? Lui, c'était un syndicat. Moi, je disais, les élections, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quoi de voter si finalement on n'est pas respecté? Parce que il y a beaucoup de gens qui vont directement au dossier de fond. Ils regardent pas la question de la promesse reniée. Moi, ça me fait rire. Tu sais, il y a des gens de Québec solidaire un peu partout, dans les quartiers centraux de Québec, qui sont tout contents que le gouvernement Legault renie sa promesse électorale. Parce qu'eux autres, ça les favorise, parce que c'est leur point de vue, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de troisième lien. Mais y a-tu quelqu'un qui s'intéresse à la question de la moralité en politique au Québec? C'est pas une question banale, là. Parce que si c'est comme ça que ça marche, c'est tout notre processus démocratique qui est altéré, là. Alors, Québec solidaire, eux autres, ils vont être de même aussi. Ils vont promettre des affaires puis ils le feront pas. C'est quoi, là? C'est correct que ça se passe comme ça? Parce que tous les partis devraient s'insurger. Mais là, les libéraux disent « Ah, ça n'a pas de bon sens, les caquistes font des promesses qu'ils ne respectent pas. » Mais les libéraux, ils n'ont pas de leçon à donner.
Ils n'ont pas de leçon à donner, effectivement.
C'est pas vrai, le pire parti pour le non-respect des promesses.
Puis je pensais pas vous dire ça cette année, mais je suis content du Parti québécois qui a eu cette idée-là, parce que 2009-2011, Éric Kerr avait décidé de faire un projet de loi qui ferait en sorte que si un député de la région était élu sur des promesses électorales puis il ne les réalisait pas dans les deux premières années de son mandat, bon, on pouvait aller dans ce que les Anglais appellent un « recall ». Donc, retourner aux prochaines, tu sais, retourner en élection parce que l'individu n'a pas livré ce qu'il voulait vendre au départ. Et ben voilà, on parle de pétition et tout ça, mais on s'en fâchera pas là-dedans. Mais le recall, le Parti québécois propose ça. Je trouverais tellement que ça m'aide.
Bien, ils vont présenter le projet de loi qu'Éric Kerr avait présenté en 2011.
En 2011, oui.
Qui prévoyait ça. Puis c'est correct
logique.
Qu'on ait un processus de révocation. Tu peux avoir un député qui est condamné pour des crimes sexuels, des affaires épouvantables, puis qui reste en poste, puis tu peux dire, moi, je veux pas, ça m'intéresse pas. Donc, on retire. Ça peut être aussi une question de moralité. Ça peut être une question de position. Ça peut être une question d'une promesse reniée. Mais dans le cas d'Éric Kerr, évidemment, il est dans le trouble. Mais moi, je te le dis, là, oui, Éric Kerr, c'est patent là, qu'il n'a pas respecté son engagement. Puis lui, il avait même promis qu'il allait quitter la politique, quitter son siège, si jamais ce n'était pas respecté. Même dans son premier mandat, on est rendu dans le deuxième. Il a été élu deux fois là-dessus, au moins. Et puis il avait été élu aussi dans l'ADQ avant, là. Puis il défendait ce genre de projet-là bien avant la CAQ. Alors, mais le problème que je vois, moi, c'est surtout, là, c'est Drainville puis Biron. Moi, je te jure, là, c'est deux candidats vedettes sur la Rive-Sud qui sont arrivés, puis Drainville, je pense qu'au niveau de l'engagement politique sur la Rive-Sud en campagne électorale, tu sais, quand il a dit « Sacrez-moi patience avec les GES, là, les gaz à effet de serre, là.
Ouais.
Tu te souviens-tu?
Oui.
Il défendait le troisième lien, là. Puis il a été très, très virulent, puis ça a sorti partout au Québec. Tout le monde était un peu surpris, mais on était surpris, mais en même temps, on était convaincus qu'il défendait le troisième lien, puis c'est comme ça qu'il a été élu sur la Rive-Sud. Les gens de la Rive-Sud, de Lévis, ils veulent un troisième lien, probablement plus encore que les gens de la Rive-Nord, parce qu'eux autres, c'est une question de débouchés, c'est une question de développement de leur région, ouais, d'accès à la capitale.
C'est d'avoir un périphérique, là, c'est bouché sur Henri IV, ça prend une place pour faire le tour.
Les gens de la Rive-Sud sont insultés, puis les deux comtés, puis en plus, Drainville, je pense qu'il est responsable de la région de la Rive-Sud, je ne sais pas trop, là. Alors, Biron puis Drainville, les deux vedettes, on les a fait rentrer par le troisième lien, parce qu'autrement, je suis convaincu que ces deux députés-là n'auraient pas été élus. Ces deux candidats-là n'auraient pas été élus.
Deux commentaires pertinents. M. Legault a été souverainiste pendant 40 ans. Il a renié ses valeurs pour accéder au pouvoir. Les gens qui ont voté pour la coalition Avenir Québec s'attendaient à quel genre de gouvernance? Poser la question, c'est y répondre. C'est la même chose pour Bernard Drainville. M. Legault et Drainville sont dans la même catégorie. Salutations, c'est Christian de Lévis maintenant. Il dit « Salut, j'ai habité Montréal et je vais te dire pourquoi. Les Montréalais sont heureux aujourd'hui de la perte du troisième lien. Pour la seule unique raison, et ça n'a rien à voir avec le troisième lien, c'est purement que les Montréalais étaient fâchés d'avoir perdu la mainmise du pouvoir qu'ils ont l'impression d'avoir maintenant récupéré. »
Bien, ces budgets-là vont tous aller à Montréal, là. Parce que les budgets routiers dans la région de Québec, il n'y en a plus, là. Il n'y a pas un pied carré d'asphalte qui va se faire à Québec dans les quatre prochaines années, là. En tout cas, je ne penserais pas. Les projets autoroutiers, les projets de développement autoroutier dans la région de Québec, il n'y en a pas.
Non, ils vont repatcher pour les prochains...
Ben là, c'est ces argents-là qui devaient aller, même les projets d'études qui devaient se faire sur le troisième lien, là. Il n'y en aura pas pour le troisième lien transport en commun. Puis qui c'est qui va prendre le transport en commun? La bombe, il y a raison dans le sens que ça ne se fera jamais, ces projets-là. Là, ils vont traîner ça, ils vont faire un petit bout avec ça. Ils vont aller chercher peut-être une certaine clientèle pro-transport en commun Rive-Sud. Les jeunes, peut-être, je sais pas. Je sais pas comment ça va s'arrimer. Parce que le transport en commun sur Rive-Sud, il est pas très structuré, là. Il est pas très développé. Fait que les gens qui veulent passer par le transport en commun, troisième lien, Rive-Sud, Rive-Nord, il faudrait qu'ils prennent quoi? L'autobus? Un autobus qui a de l'allure, oui. Avec des fréquences acceptables. Puis là, ils vont prendre le troisième lien, autobus, puis ils vont rentrer sur la Rive-Nord, un autre autobus. Puis là, ils vont laisser leur char roux, ils vont partir de chez eux. Il faut que le transport en commun soit bien structuré, ouais. Sur la Rive-Sud pour pouvoir les amener jusqu'au tube.
Mais je reviens avec les chiffres que Geneviève Guilbeault nous a mentionnés pour ce qui est du fait qu'on enlève les véhicules à l'intérieur du troisième lien. Là, ce qu'elle nous a amené comme argument, on pourrait parfaitement l'utiliser pour le tramway puis pour le fameux tube qu'on veut de transport en commun. Les chiffres sont comme elle l'a dit, c'est-à-dire il y a beaucoup moins d'achalandage qu'il y en avait. T'sais, elle devait dans le cours, elle apprend mot pour mot. Puis pour ce qui est du troisième lien, uniquement transport en commun, moi, je suis un utilisateur du circuit routier. Je travaille le jour et le soir. Je travaille tout le temps, en fait. Là, j'ai pas de vie. Puis des fois, la fin de semaine aussi, je travaille puis je regarde ce qui se passe dans les autobus. Le soir, il n'y a pas un chat dans les autobus. Le jour, dans le milieu de la journée, il n'y a pas un chat non plus. Puis la fin de semaine, non plus, il n'y a pas un chat. Ce tube-là qui va nous coûter 6 milliards de dollars va servir à parfois à 2-3 personnes.
On a dessus la bonne raison. Ils vont faire le tramway, puis ils vont dire sais-tu, c'est pas pire. Puis le transport en commun a fait notre effort, puis ils vont finalement abandonner le projet parce que, écoute, faire le tube, creuser sous le fleuve un tunnel, tant qu'à le faire, t'es aussi bien de le faire pour les autos aussi.
Oui.
Non, mais tu sais, c'est une grosse foreuse là, qui descend dans le fleuve, qui va faire, tu vas ouvrir en dessous du fleuve. C'est quand même des coûts immenses pour le transport en commun seulement, puis tu t'occupes pas de l'automobile. Les gens qui arrivent de Montmagny, puis qui arrivent de Bellechasse, puis qui arrivent de la Gaspésie, là, puis du bas du fleuve, là, ils vont rentrer comment? Ils vont laisser le char là, puis ils vont prendre l'autobus.
C'est
ridicule. Il n'y a personne qui fait ça.
Exact. Maître Bellemare, je voulais aborder un autre sujet avec vous, la petite fillette de Granby, qui est malheureusement décédée dans les dernières années, dans des conditions de vie qui étaient atroces pour un enfant. Ben, le père de la fillette de Granby va devoir rester en prison. C'est la bonne nouvelle. Je comprends juste pas pourquoi, quand la victime d'un individu est décédée, même si c'est son père ou sa mère, pourquoi on ne nomme pas le nom de l'individu? Parce que dans ce cas-ci, on ne veut pas donner le nom du père parce que ça va identifier la victime. La victime est décédée.
Mm-hmm, t'as raison.
Puis on continue quand même à ne pas nommer le nom de l'individu puis le nom de la dame aussi qui est responsable dans le dossier de la mort de cette pauvre enfant-là. Mais bref, il n'a pas réussi à convaincre la commission des libérations qui avait suffisamment cheminé pour être libéré de prison. Et le gars s'explique encore mal pourquoi il a attaché son propre enfant de 7 ans avec du ruban adhésif lors de la nuit d'avril 2019. Ça fait déjà 4 ans. Ça fait déjà 4 ans, cette histoire-là. On dit que les décisions pour empêcher l'enfant de sortir de la maison étaient irrationnelles et inacceptables. Et 15 mois seulement après sa condamnation, lui qui est écopé de 3 ans et demi de détention, il aurait pu être libéré.
Ouais, c'est ridicule, pareil. Hein? Mais tu sais, c'est les portes tournantes des libérations conditionnelles. Je l'ai toujours dit, ce qui nuit le plus à la crédibilité de notre système judiciaire, c'est les libérations conditionnelles. Harold Lebel, c'est pas un mauvais gars, là. Mais t'as-tu vu à peine, toi, quand est-ce qu'il est sorti? Je sais pas combien de jours, là. 50-quelques jours, ça se peut-tu? Alors qu'il y a une condamnation à plusieurs mois.
Mm-hmm.
Alors, tu sais, c'est devenu un peu ridicule. Parce que les juges travaillent fort pour imposer des peines. Puis à un moment donné, t'as des commissaires qu'on voit jamais, qu'on n'entend jamais, qui rendent des décisions plus ou moins obscures, très, très peu médiatisées. Sauf qu'à un moment donné, évidemment, il y a un journaliste qui dit comment ça se fait qu'il est sorti, puis qu'il regarde la décision parce que les victimes reçoivent les décisions, puis là, il s'aperçoit que ça n'a pas de bon sens. Mais ce gars-là, là, c'est pas le caractère odieux de son crime qui est considéré aux libérations conditionnelles, c'est son cheminement. Alors, t'as beau avoir tué 50 personnes, ton cheminement, toi, comment te sens-tu? Comment es-tu dans ton corps, dans ton cœur? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu as récupéré? As-tu fait une thérapie? Est-ce que tu présentes un risque raisonnable pour la société? Alors, probablement que c'est un cabochon qui a témoigné, tout comme un cabochon, puis les commissaires ont dit, bien là, ce gars-là, il n'est pas prêt à sortir.
Ouais.
Il
n'a bon pas compris. Il
n'admet pas ses torts. Ouais. Il n'a pas fait de thérapie suffisamment. Il a encore du cheminement à faire. Il représente un risque inacceptable pour la société. C'est toujours par rapport à lui, là. La fillette de Granby, là, ça, je suis pas sûr que ça a été ben important dans l'interrogatoire auquel il s'est soumis devant un commissaire. Et si on l'a gardé en dedans, c'est probablement parce que lui représente encore un risque inacceptable pour la société.
Cet individu-là a enroulé sa propre fille de 7 ans avec du duct tape et une chemise qui était nouée comme une camisole de force. Je veux pas être trop explicite.
Mais il l'a tué comme
ça. Je trouve
ça.
C'est raide. Et c'est juste le lendemain, avant midi, quand il s'est aperçu que sa petite fille de 7 ans respirait plus, qu'il a décidé d'appeler le 911. Elle a finalement succombé à ses blessures. Puis on a constaté, juste en arrivant, les ambulances, on a constaté qu'elle était dans une maigreur lamentable et suite à l'autopsie, ben, on a découvert qu'elle est décédée d'une suffocation, donc elle serait décédée suite à la façon dont il l'avait ligotée. Puis, on déplore également que la conjointe de l'époque avait déjà posé des gestes violents à l'égard de l'enfant, mais que le père, lui, a continué de faire de l'aveuglement volontaire parce qu'il y avait une dépendance affective. Donc, il ne voulait pas rester tout seul. Donc, il restait avec la marâtre qui était extrêmement méchante avec sa jeune fille de 7 ans parce qu'il ne voulait pas être ça.
Marâtre qui n'était pas la mère de l'enfant.
Qui n'était pas la mère de l'enfant, effectivement.
Mmh, qui devait détester l'enfant pour obtenir les faveurs du père d'une quelconque façon.
Ouais, elle a écopé de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans.
On verra bien. Moi, je crois plus rien de ça. Tout ce qui touche les libérations conditionnelles, là. Yves Thériault avait écrit un livre, là, tout le monde dehors, je ne sais pas si tu te souviens, dans le cas de Mario Bastien, là, qui avait tué le petit Livernoche. Là.
Oui,
il avait tout suivi ça, là, puis il avait fait un livre extraordinaire, tout le monde dehors, sur libération conditionnelle. C'est encore d'actualité, parce que, tu sais, Scalaise là, qui a tué la petite fille dans l'hôtel à Sainte-Foy, là. C'est la même affaire. Il en sort à plein, là, puis on les voit pas tout le temps. Mais des peines qui n'ont pas d'allure. Puis je reviens sur Harold Lebel. Là. Je pense que c'est 56 jours qu'il a fait, là. Je sais pas trop. Ça n'enlève rien à l'individu. Puis moi, je l'ai connu, Harold Lebel, personnellement. C'est un chic type, un gars dévoué qui s'est impliqué en politique, qui a été très généreux de son temps. Ça n'a rien à voir, mais je comprends pas comment ça se fait quand le juge décide, après qu'un jury ait passé sur le dossier, tu as tant de temps à faire qu'il fasse à peu près quoi, 10 % du temps.
Mm-hmm. Je comprends que la justice doit être égale avec tout le monde, mais quand c'est un représentant du peuple, quand c'est quelqu'un qui est dans les forces de l'ordre, quand c'est quelqu'un qui est, je sais pas, quand c'est un avocat, quand c'est un juge, quand ces gestes-là sont commis, je pense qu'on devrait peut-être être plus sévère envers ces individus-là, qu'on doit tout le temps faire confiance.
Oui, mais c'est les libérations conditionnelles, Yann.
Ouais.
C'est ça le problème. C'est que la condamnation, souvent, on dit « Ah ouais, ben là, il a pogné tant, il aurait pu pogner plus, puis tout ça. » Tu sais, comme le gars de Granby, c'est 7 ans qu'il a pogné le père. Bon, alors moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Il a étouffé sa fille, il pogne 7 ans. Ça n'a pas de bon sens, mais il a pogné 7 ans. Puis là, il veut sortir. Ça fait quoi, un an et demi?
13 mois.
13 mois. Il veut sortir. C'est quoi l'affaire? C'est quoi la joke? Tu sais? Il y a un juge qui a décidé ça. Il y a un processus judiciaire. Il y a une police qui enquête. Ça coûte un bras. Il y a tout le système, les greffiers, les locaux. Puis on décide d'aboutir avec 7 ans. Puis au bout de 13 mois, il veut sortir. Puis on l'écoute, puis on généreusement. Puis on lui donne probablement l'aide juridique, puis plein de services, plein de faveurs. C'est ça qui nuit à la crédibilité du système. C'est que les gars, les filles sortent après peu de temps par rapport à la peine. On se retrouve avec des cas, des fois. Puis c'est pas toujours des libérations complète. Mais tu sais, ils ont des droits de sortie, ils ont le droit d'aller chez le docteur, ils ont le droit d'aller voir leur famille, ils sont en maison de transition, mais il y a une forme de libération partielle. Puis c'est déjà trop parce que normalement, ils devraient être en dedans.
Maître Bellon, en début d'émission, on parlait du no fault et dans les dossiers que vous vouliez aborder ce soir, il y avait une victime du régime no fault. Elle mentionne que la Coalition Avenir Québec l'a utilisée puis par la suite abandonnée. On parle du cas ce soir de Nancy Leblond.
Oui, j'ai suivi ça de très près. Moi, Nancy, je la connais personnellement. C'est une fille qui a été victime d'une incompétence d'un véhicule automobile il y a plusieurs années. Et elle a été incapable de poursuivre le fabricant automobile. Il y a une espèce de... une collision, je pense, c'est 5 ou 10 km/h. C'est parfaitement ridicule. Normalement, il y avait à peine des dommages sur le véhicule. Et il est arrivé une espèce d'explosion, puis il y a des produits chimiques qui ont pété à la figure.
La fameuse poudre là, qui était à l'intérieur.
C'est ça. Et là, ça l'a brûlé. La peau, très sérieusement, de sorte qu'elle n'est plus capable de travailler. L'hiver, là, elle rentre chez eux comme au mois d'octobre, là, même septembre, là, septembre tard, puis elle sort comme à ce temps-ci de l'année. Là, parce qu'elle n'est pas capable de supporter le froid, même un froid très modeste, très minime. Alors, c'est une vie épouvantable. Il faudrait qu'elle aille dans un pays chaud, il n'y a pas d'humidité, en Arizona notamment, où elle pourrait aller parce que là, il n'y a pas d'humidité du tout, c'est très sec.
Ouais.
Et là, ça pourrait aller. Mais la SAC, évidemment, ne veut pas accepter de payer pour ça, pour l'envoyer en Arizona. Alors, il lui verse un remplacement de revenus au salaire minimum, 350$ par semaine. Et elle a fait une certaine cabale pour pouvoir obtenir le droit de poursuivre le fabricant automobile. Je pense que c'est GM qui est le fabricant automobile. Parce qu'il y a un défaut automobile dans l'accident. L'accident a été causé par l'incompétence d'un véhicule automobile. Ça aurait pu être un blowout, ça aurait pu être un essieu, ça aurait pu être un circuit électrique qui pète puis qui provoque une explosion. Je te dis pas ça parce que c'est un hasard, parce que c'est déjà arrivé. Des problèmes reliés au fabricant automobile, aux pneus, il y en a tout le temps. Et donc, au Québec, on ne peut pas poursuivre pour un accident d'auto causé par un véhicule automobile. Alors, elle s'est présentée, évidemment, elle a demandé aux libéraux, ils n'ont pas voulu changer la loi, on sait pourquoi. Le PQ, la même affaire, est allé voir la CAQ. En 2017, elle a eu une entrevue avec Benoît Charrette, qui était à l'époque un député.
Qui était ministre de l'Environnement.
Bien, il est devenu ministre de l'Environnement. Il a été élu en 2018.
Mm-hmm.
En 2017, il était député. Il n'était pas ministre encore. C'était Couillard qui était premier ministre. Mais il était aspirant candidat pour l'élection de 2018 qui a porté la CAQ au pouvoir. Et là, il est devenu ministre de l'Environnement.
Il lui a dit, je ferai tout pour vous aider.
Je ferai tout pour vous aider, mais il est allé plus loin que ça. Il avait vraiment promis de faire des démarches comme député s'il était élu pour changer le no-fault, pour permettre, dans le cas d'un accident d'automobile, de poursuivre un fabricant automobile, ce qui m'apparaît évident. C'est quand même pas des pauvres, les fabricants automobiles, là, Ford, GM, Toyota, là. Toi, tu t'en vas avec ton char, là, puis à un moment donné, ça pète, là. T'arrives à un feu rouge, puis ça pète, t'es sans raison, là. T'as un défaut automobile, t'es blessé dans l'événement, t'as les jambes brûlées, t'es amputé d'un bras, le feu pogne, y a des dommages corporels traumatisants.
Ouais.
Tu peux pas poursuivre le fabricant automobile, mais c'est assez niaiseux. Pourquoi protéger les fabricants automobiles? Parce qu'ils cotisent pas au régime, eux autres, là. C'est des fabricants automobiles, puis des fois, ils sont même pas au Québec. Mais à cause de la loi, tu n'as pas le droit de les poursuivre. Okay. Alors, Nancy Leblon s'est fait rouler dans la farine.
Par Benoît Charrette.
Par Benoît Charrette, comme le troisième lien, comme ceux qui sont partisans du registre des pédophiles, ouais. Dont moi, avec Mme Guilbeault, qui avait promis ça en campagne électorale 2 semaines avant l'élection en 2018. Elle faisait apparaître avec nous autres, puis elle voulait avoir un registre des pédophiles, et le ministre de la Sécurité publique, elle le fait pas. Alors, des promesses non tenues par la CAQ, là, ça commence à s'accumuler. Là.
Donc, 2017, avec Benoît Charrette, qui lui promet mère et monde en disant qu'elle allait faire tout pour l'aider, et le 30 mai 2019, à l'invitation de, comment s'appelle-t-il, ce député là, dont on entend tant parler à la grandeur du Québec, qui semble être extrêmement pertinent dans sa profession de politicien, le très célèbre Sylvain Lévesque,
okay.
Député de Chauveau,
ouais.
Le 30 mai 2019.
Qui a été contre le compte Duhem, dans le comté que Duhem n'a pas gagné la dernière fois.
Oui, qui a invité Mme Leblon à l'Assemblée nationale pour déposer des pétitions pour modifier le régime sans égard à la responsabilité, mm-hmm. No fault au Québec. Puis depuis ce temps-là, ben, croyez-le ou non, les deux politiciens ont coupé les communications avec Mme Leblon.
Oui, ils ne veulent plus y parler, ils ne veulent plus donner d'entrevues à radio, à TV, c'est mort et enterré. Alors, c'est triste au bout, parce qu'au fond, il n'y a même pas d'efforts qui sont faits, même pas de projet de loi de déposer, même pas de commission parlementaire. Ils pourraient faire au moins une consultation publique puis demander aux Québécois, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'en accident d'automobile, si vous êtes blessé gravement, au Québec, que vous puissiez poursuivre un fabricant automobile qui aurait commis une faute,
ouais.
Parce que le véhicule n'est pas conçu adéquatement, puis vous avez perdu un œil, vous avez perdu une main, quelque chose. Les Québécois seraient d'accord avec ça. 99 %, okay. Je suis convaincu, mais ils le font pas.
Mais Mme Leblon, là, est à, je sais pas moi, est à quelques kilomètres de Montréal. Mettons qu'elle a dépassé la frontière ontarienne. Elle est en Ontario. Il arrive le même événement.
Mm-hmm.
Elle peut-tu poursuivre Jim?
Oui, oui, elle peut
elle poursuivre. Peut-tu poursuivre Ford?
Oui, elle peut poursuivre. N'importe où ailleurs qu'au Québec. Au Québec, tu ne peux pas le faire parce que l'accident est arrivé ici. Alors, c'est ça qui fait que, tu sais, à un moment donné, il y a eu, il y a quelques années, une espèce de scandale aux États-Unis de Bridgestone, Firestone, les pneus pétaient.
Ouais.
Ça doit faire 25 ans. Il y avait un problème de conception dans les pneus. Il y a des recours collectifs aux États-Unis. Ils ont payé des milliards. Au Québec, aucun recours, même s'il y a eu des accidents en lien avec les pneus incompétents. Les fabricants automobiles, c'est pas juste la carcasse puis le système électrique, c'est aussi les pneus. C'est le gars qui va réparer tes pneus quand tu fais tes changements de pneus au printemps, là. Tu t'en vas au garage, puis le gars, il boulonne ton pneu tout croche, puis tu perds une roue là, à 120 km/h, puis tu capotes, là.
Mm.
Tu peux pas poursuivre ton fabricant automobile. Il a mal boulonné ta roue. C'est ridicule. Tu comprends-tu?
Okay. Ça m'est déjà
tu peux pas poursuivre. Fait que tu vas accepter les pinottes que la SAC va te donner. Là,
ouais.
Puis tu vas te battre devant le tribunal administratif pour avoir des traitements de chiro.
Moi, j'avais pas fait d'accident, mais j'avais fait un méchant saut parce que je m'étais fait dépasser par une roue. Puis je me suis dit, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Et là, tout d'un coup, en tassant un peu mon volant là, pour aller un petit peu plus à droite, je me rends compte que mon volant tangue d'un bord.
Ouais.
Et je me suis aperçu que cette fameuse roue-là, c'était la mienne. Mais c'est ça. Je venais de faire mon changement de pneu. Puis ça va vite, hein, lors des changements de pneus. Fait qu'il avait oublié de bien boulonner mes affaires. Puis j'aurais pu me tuer.
Ben moi, il y a une vingtaine d'années, là, il y avait au coin, je pense que c'est La Chance, son nom. Le garage, c'était à côté de Rina Pizza, là, au coin Chemin Sainte-Foy, puis Marie-Rollet, Chemin Sainte-Foy. Et je fais changer mes pneus, mes roues, parce que les pneus étaient prêts après les roues, elle changeait les roues. Et je descends à Montréal assez vite. J'avais une bonne BM, là, puis j'avais un bon moteur. Je descends à Montréal assez vite.
À 119 km/h.
Ouais, c'est ça. Et quand je reviens de Montréal, tu sais, quand tu sors de la 132, puis tu viens prendre la 20, là, t'as comme une petite courbe qui monte, là. Puis à un moment donné, le char se met à tanguer à gauche. Je me tasse complètement. Puis pourtant, j'étais sur le sec. Puis je me tasse sur le bord, là. Puis j'avais, il y a 5 boulons, là.
Ouais.
J'en avais 3 qui étaient mangés. Parce que le cisaillement de la roue avait provoqué la coupure de 3 boulons. Il en restait juste 2.
Yeah boy.
Alors, j'ai perdu 2 jours parce qu'il a fallu que je me fasse remorquer.
Ben
il
oui.
a fallu que le garage BM de Brossard règle ça. J'ai perdu du temps. J'ai eu la peur de ma vie, mais j'ai pas été blessé, mais j'aurais pu me tuer, comprends-tu?
Mm-hmm.
Alors, je suis allé aux petites créances, j'ai poursuivi le bonhomme pour à peu près 1400$. J'ai gagné ma cause, il n'a jamais voulu payer. Je suis allé aux petites créances, j'ai été payé. Mais ça m'est toujours resté, puis je me suis dit, effectivement, si je m'étais tué ou je m'étais blessé, parce que, écoute, ça n'aurait pas été de cette courbe-là, là, si c'était arrivé à la hauteur de Sainte-Julie, là, je prenais le champ, puis je capotais. Mais pas de recours, jamais. Alors, c'est une des situations qui devrait être corrigée. Mais encore là, ça prend un parti qui va respecter ses engagements. Et on voit bien qu'ici, comme ailleurs, la CAQ n'est pas au rendez-vous.
Maître Bellemare, le télétravail, est-ce que c'est un droit ou ça n'est pas un droit pour un employé?
Ça me fait rire. Ça me fait rire. Mais il y a une bonne chronique dans Le Soleil de
Lise Ravary.
Ouais. Très, très bonne, brillante. C'est une fille que j'aime bien. Elle était au Journal de Québec avant. Maintenant, elle est au Soleil. Et c'est très bon. Ce qu'elle dit, finalement, c'est que c'est pas un droit. Puis il y a quand même une certaine limite au télétravail. Moi, je comprends ça. Puis il y a beaucoup de fonctionnaires qui revendiquent le droit au télétravail puis qui disent « Moi, je veux travailler de chez nous. » Je comprends, c'est plus facile. T'as pas à traverser le pont, t'as pas à t'habiller à quatre épingles, t'as pas à aller manger avec ton lunch, tu restes chez vous. C'est plus confortable, surtout l'hiver. Mais le patron a quand même le droit de gérer ses employés puis de voir la face de tes employés de temps en temps. C'est une bonne affaire. Puis de surveiller la qualité du travail, puis l'entre-gens, puis es-tu à son affaire, puis c'est-tu des breaks de 45 minutes ou c'est des breaks de 10 minutes ou de 15 minutes? Puis vas-tu aux toilettes aux 35 minutes ou vas-tu aux toilettes aux 2 heures? Mais écoute, à un moment donné, je pense que c'est normal que le patron garde son droit. Puis là, les fonctionnaires fédéraux veulent avoir le droit au télétravail. Ils veulent enchâsser ça dans la convention collective. Je compte ça complètement. Et que le patron l'accepte dans certains cas. Selon ce que tu fais, selon le type d'emploi que tu as, téléphoniste, technicien, vérificateur, mais que le patron conserve son droit d'exiger la présence quand il veut, des employés, le nombre d'heures qu'il veut dans une semaine régulière, puis j'espère que Trudeau ne viendra pas plier là-dessus, mais tu sais...
Mais c'est clair qu'il va plier, j'en suis persuadé.
Tu penses qu'il va donner le droit au télétravail? Parce que là, écoute bien, ça va faire boule de neige, là. S'il donne ça au fédéral, là, attends-toi à ce que ça soit de la plupart des conventions collectives qui
plus
vont...
Plus de télétravail, moins de véhicules sur la route, moins de véhicules qui émettent de la pollution, Maître Bellemare. Steven Guilbeault emmène large.
Mais toi, t'es patron, là.
Ouais.
T'es patron, t'es au ministère de l'Éducation, au ministère des Transports, ou t'es à l'Auto-Québec ou à Hydro-Québec, là. Puis t'as 40 employés, puis t'en as le droit, t'en as 12 qui rentrent, t'en as 28 qui rentrent pas. T'es-tu bien dans ton...
Bien, ça dépend de la...
Comment ça, vous gérez ça?
Ça dépend de la job que ces gens-là ont à faire, mais si on les juge au dossier qu'ils font, moi, j'aurais pas d'objection. T'sais, moi, je l'ai déjà fait avant même que le télétravail existe. Là. Je le faisais avec des monteurs vidéo. T'sais, je leur donnais une tâche à faire. Il y avait, exemple, 35 heures pour ce dossier-là. Puis au bout de 35 heures, il fallait que le travail soit livré. T'sais, c'était comme... Je les mettais à forfait. Là. C'est-à-dire, regarde, tu as 35 heures pour faire ce travail-là, ça me prend la vidéo, est-ce que ça te va? Si t'as accepté, bien, il pouvait travailler tant au bureau où je travaillais que chez lui, tant aussi longtemps que ça se faisait. Je m'étais adapté. Mais cela dit, pour des fonctionnaires, on va prendre un exemple, vous et moi, on va prendre Hydro-Québec, parce que c'est quelque chose qu'on a appris. Pendant la pandémie, Hydro-Québec permettait à ses employés de travailler de la maison, parce qu'ils jugeaient que de les amener au bureau, ça pouvait propager la COVID. Bon, c'était logique.
Ouais, c'était logique, oui.
De prendre cette décision-là. Et ils se sont aperçus que les employés, avec des logiciels, pouvaient faire brasser la souris dans l'écran.
Okay.
Ce qui faisait en sorte que Hydro-Québec, avec leur système, considérait que l'employé travaillait puisque la souris bougeait dans l'écran.
Oh.
Mais là, ils ont été obligés de... Parce, en sachant que les employés s'étaient dotés d'un programme qui faisait bouger la souris, ils ont été obligés de se doter chez Hydro-Québec d'un programme qui détectait les programmes pour faire grouiller la souris. Mais ils n'ont pas pris de mesures disciplinaires. Ils n'ont pas crissé dehors.
Ben, ça devient compliqué, là.
Mais moi, à mes yeux, à moi, si tu voles ton employeur, bon, je peux peut-être... Mettons que c'est moi, je peux peut-être te donner une chance, là. Regarde, t'as fait une erreur de jugement, mais à la deuxième fois, c'est fini, c'est terminé, tu t'en vas, là.
Ils n'ont pas bougé, alors que c'est très facile à trouver.
Ben oui.
Ils sont capables d'identifier les 542 employés qui ont fait ça, puis mais il n'y a pas eu de mesure disciplinaire de prise. Mais de façon... Moi, je ne suis pas un expert en numérique et en informatique, mais est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un qui travaille de la maison toute la journée, toute la semaine, est aussi efficace au travail que quelqu'un qui se présente, puis qui est vérifié, puis qui est observé, puis qui travaille en équipe, puis qui doit échanger avec les collègues? Je sais pas, moi. Je regarde les étudiants à l'Université Laval. J'ai un fils qui étudie actuellement à l'Université Laval. Il s'est pas présenté en salle, ça fait à peu près 2 ans. OK? Il est tout le temps sur son ordinateur. Il est un peu écœuré. Lui, il aimait ça, la dynamique d'une classe.
Ouais.
Les échanges, les regards, tu sais, on bouge, on s'assoit, on écoute un prof qui gesticule, qui parle, qui argumente, tout ça. Là, c'est tout sur le numérique. C'est pas la même qualité de formation. T'as pas la même qualité au niveau cérébral aussi. L'attention, la concentration, la mémoire. Il me semble que c'est des fonctions qui sont moins alertes quand tu es sur le numérique tout le temps. Mais la productivité, je ne sais pas si un jour on va l'évaluer, mais j'ai hâte de voir les premières études qui vont sortir pour voir comment est-ce que quelqu'un qui fait 32 heures chez eux devant l'écran est productif autant que quelqu'un qui est au bureau. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis plus traditionnel que ça, là, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner éventuellement.
Donc, j'ai lu l'édito de Lise Ravary qui parle du télétravail et qui mentionne que le télétravail n'est pas un droit, mais bon, comme je suis un journaliste d'enquête, j'ai été sur un de nos sites préférés, Droit Inc. Est-ce que votre employeur peut vous obliger, Maître Bellemare, à faire du télétravail, oui ou non?
Ben moi, je pense qu'il peut vous obliger, oui, mais il peut vous obliger, il peut vous empêcher d'en faire aussi. Non?
En principe, à moins que ce soit déjà prévu à votre contrat de travail, votre employeur ne peut pas vous obliger à faire du télétravail. Ça pourrait être considéré comme une atteinte à votre vie privée.
Bon, j'ai des réserves là-dessus, là.
Est-ce que vous pouvez exiger de faire du télétravail?
L'employé ou l'employeur?
L'employé.
L'employé, c'est... Ben non.
En général, effectivement, vous ne pouvez pas exiger de faire du télétravail si votre contrat de travail ne le prévoit pas. Est-ce que l'employeur doit vous fournir l'équipement de bureau s'il vous permet de faire du télétravail?
Oui.
Même en télétravail, vous avez généralement besoin d'un ordinateur et de ses périphériques de fourniture de bureau, d'un bureau et d'une chaise. Votre employeur est libre de vous les fournir.
Oui, mais si tu les as déjà, mais normalement, si tu achètes de l'équipement de travail... Puis qui accepte le télétravail, normalement, il devrait payer. En tout cas, mais de toute façon, moi, je pense que l'important, c'est que le boss demeure le boss, puis qu'il y a un employeur, il y a quelqu'un qui contrôle la qualité de la productivité dans l'entreprise par tous les moyens possibles.
Je me pose des questions, là. Vous êtes sur vos heures de travail à la maison, puis vous devez vous lever pour aller aux toilettes. Vous êtes sur un plein-pied, mais vous pognez, mettons, il y a 3 marches là, pour aller aux toilettes. Là. Vous vous fracturez une cheville.
Ben oui, c'est déjà arrivé, ça.
Vous êtes sur vos heures de travail, mais vous êtes à la maison.
C'est un cas de CNSST, ça a été accepté.
CNSST.
Oui. La fille, elle s'en allait manger, elle s'en allait pas pisser. Elle s'en allait manger, je pense qu'elle était au sous-sol.
Oui.
Puis elle montait pour aller manger à la cuisine. Puis elle est tombée dans l'escalier, puis elle s'est brisée quelque chose. Puis le tribunal administratif du travail a dit que c'était un accident de travail parce qu'elle est en télétravail. Puis en télétravail, les notions de conditions de travail sont plus extensives. Ça couvre les déplacements à l'intérieur de la maison. Écoute, je suis pas sûr que s'il y avait 3-4 causes de cette nature-là, les juges viendraient tous à la même conclusion. Mais il y a un jugement qui est sorti qui a dit que c'était un cas de CNSST.
OK. Est-ce que, oui ou non, on doit avertir nos assurances habitation comme quoi on fait du télétravail?
Moi, je pense que oui.
En général, oui, un assureur détermine ses primes d'assurance en fonction du risque que votre situation générale représente.
C'est sûr que tu ne fais pas du télétravail avec un 45 gallons d'essence, là, ou avec un compresseur, là, mais qui peut augmenter le risque, ou avec une motocyclette, là. Mais il reste que si tu es présent plus souvent, c'est un peu comme quand tu quittes et ta maison est inhabitée. Tu dois le dire parce que là, il n'y a personne qui surveille. Bon, à l'inverse, si tu es tout le temps chez vous, à ce moment-là, tu peux utiliser peut-être plus les appareils électroménagers. Il y a des risques d'événements, il y a des risques de bris qui sont peut-être plus importants. Mais écoute, encore là, je ne pense pas qu'il y ait des jugements de cour qui soient très explicites sur la question. Mais tout ça va venir avec le temps, avec cette nouvelle réalité tellement agréable.
Exact. Mais là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein? Tu sais, les employés d'Hydro-Québec, on leur permet de faire du télétravail, puis là, ils trouvent un moyen d'acheter un programme qui fait brasser la souris pour faire à croire qu'ils travaillent.
Oui, puis ils se transmettent le truc. Là,
ben oui, ils se sont transmis le truc.
On envoie des textos à plein, puis on dit « essaye ça, tu vois, ça marche ».
Oui, puis après ça, c'était
on se fait voler des heures, puis après... l'autre, les cocos, on paye pareil.
C'est ça. Après ça, t'es crise des heures, puis là, attends un peu, là, mon syndicat va me défendre, ça s'en va en cours.
Ben oui, c'était toléré, c'était acceptable, c'était prévisible.
Ben oui, c'est tout à fait normal. Qu'il y ait un programme brasse ma souris pour faire croire que je travaille. Hey, on change de dossier, on s'en va sur le dossier de Bernard Dusablon, un gars de Québec de 57 ans qui a plaidé coupable à des menaces de mort aux dépens de 5 victimes, dont son ex-conjointe et son frère. L'individu émettait ses propos sur la page Facebook, la fameuse Jungle Hardcore.
C'est un meurtrier, ça?
C'est un meurtrier des années 80, hein?
Oui, il a tué quelqu'un de coup de couteau, je ne sais pas trop, là. En tout cas, c'est un meurtrier. Et le juge a estimé qu'il n'avait rien compris de la situation. Il n'avait pas appris de son séjour en prison parce qu'il a continué d'harceler 5 personnes ayant des menaces de mort puis tout. Puis il était très sérieux, très explicite, puis il allait sur des sites où il y avait des images explicites d'assassinats, puis etc. Et il y a des gens qui ont témoigné au procès, des victimes de ça, qui ont dit on était véritablement inquiets, puis on dormait plus, puis on avait peur qu'il passe aux actes, puis qu'il nous tue, puis qu'il nous suive en quelque part. Puis à un moment donné, tu te dis, écoute, tu as des menaces à plein, là. Puis tu sais, ça dure des mois, des années. À un moment donné, tu sors de chez vous, tu peux avoir une certaine crainte. Moi, je comprends ça. Des menaces, là, c'est sérieux. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, là, c'est toujours sérieux.
C'est ça. Dans mon ancienne vie de radio, j'en avais régulièrement. Je vous dirais que depuis que je suis sur les zones de boulevard, c'est un peu relax là, pour ce qui est des menaces à mon intégrité physique. Mais c'est sûr et certain que si j'apprends que quelqu'un me fait des menaces, puis c'est quelqu'un qui a tué une autre personne dans les années 80, bon, peut-être être un peu plus stressé. Du moins, je passerai par la porte de derrière pour aller à ma voiture plutôt que la porte de devant. C'est le 30 novembre 1987 que Dusablon avait tué le coiffeur Gilles Caouette à l'île d'Orléans.
Il était d'un jeune vingtaine à ce moment-là.
De 8 coups de couteau. Lui, il avait affirmé qu'à l'époque, il avait consommé de l'acide, de la cocaïne puis de l'alcool. Il avait donc plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire puis il avait écopé de 21 ans de prison. Donc, lui, effectivement...
Mais évidemment qu'il n'a pas fait ça, on en a parlé tantôt. Là.
Non, c'est ça. Mais l'objectif pour le juge, Maître Bellemare, parce qu'on lui a donné une peine à purger dans la collectivité à cet individu-là, menaçait de mort d'autres personnes et qui avait déjà tué. L'objectif, Maître Bellemare, attendez un petit peu, là, je vais enlever mon... je vais replacer mon dentier. L'objectif était réinsertion sociale.
Oui, oui, oui. Il présente des bonnes perspectives de réinsertion sociale. C'est pas un mauvais gars. Il fait une thérapie. Il a admis ses torts, il est plus dangereux, etc.
Il est en mesure de travailler depuis plus de 30 ans, mais il se pogne l'arrêt puis il fait des vidéos sur Internet.
Ouais.
Réinsertion sociale.
Alors là,
pas
il
réussi.
A donné 2 ans, moins un jour. C'est un peu dans l'esprit de la loi, je pense, c'est le C5 là, que Trudeau a adopté, pour favoriser les peines dans la collectivité. Et, mais en même temps que je lisais ça, je lisais aussi une dépêche. Sur un jugement important que la Cour d'appel vient de rendre dans le dossier de Benoît Lemieux, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Je ne veux pas minimiser, là, une agression sexuelle, c'est tout le temps dégueulasse, là. Mais tu sais, le gars, il harcèle puis il menace de mort pendant des années 5 personnes. Puis c'est un meurtrier qui a purgé une partie de sa peine. Et on lui donne 2 ans moins un jour à domicile, donc dans la collectivité. Alors que l'autre, lui, la Cour d'appel avait décidé de maintenir une peine d'emprisonnement pour une agression sexuelle. L'homme de 43 ans s'en était pris la victime pendant une fête organisée chez lui. La fille avait pris un coup, elle avait consommé, elle avait des problèmes, il s'est couché à côté d'elle, il l'a agressée sexuellement. Alors, il a pogné un an de prison. Et il a contesté ça. Il a 12 mois de détention. Il a contesté ça. Il voulait avoir une peine dans la collectivité en invoquant le projet de loi C-5, l'esprit du projet de loi C-5 de Trudeau qui veut favoriser les peines dans la collectivité. La Cour d'appel, il a refusé en disant il y a des limites, il y a des catégories de crimes pour lesquels la prison est requise.
Ben, parce que lui, il semblait pas comprendre c'est quoi ça voulait dire un nom. Là. Lui caressait les seins, caressait la veuve. Il a pris son pénis pour l'enfoncer directement dans sa bouche pour obtenir une fellation. On parle carrément d'une agression sexuelle.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais tu sais, regarde, je regarde du sablon qui pogne 2 ans dans la collectivité pour avoir, pendant 5 ans, menacé de mort puis terrorisé 5 personnes. Je ne sais pas si le DPCP, il y a une cohérence dans cette patente-là, là, mais est-ce que c'est possible, dans le même esprit que le jugement de la Cour d'appel qui dit qu'il y a certains crimes où il y a une peine de prison qui est nécessaire, pourquoi ce du sablon-là ne verrait pas là, sa demande, le jugement porté en appel? Parce que la Couronne avait demandé, si je me souviens bien, dans le cas du sablon, 2 à 3 ans de peine de prison. Et on lui a donné 2 ans moins un jour dans la collectivité. Même, je me demande si c'était pas 3 à 4 ans dans le cas du sablon. Ce que je veux te dire simplement, c'est qu'en suivant les enseignements de la Cour d'appel, le DPCP devrait aller en appel de ça. D'abord, il a obtenu beaucoup moins que ce qu'il avait demandé. Puis si on veut vraiment faire un test sur la question de la prison à domicile versus la prison en institution, bien, ça serait un très beau cas à faire. Puis le dernier jugement de la Cour d'appel dans l'affaire Benoît Lemieux, je comprends que c'est une agression sexuelle, puis c'est probablement dans la tête des juges encore pire que d'harceler 5 personnes, mais on devrait aller en appel pour obtenir des jugements de principe sur un ensemble de crimes pour savoir qu'est-ce qui permet d'aller dans la collectivité versus en institution. Des beaux cas.
On parlait tantôt d'Harold Lebel, puis dans le dossier d'Harold Lebel, bon, sa victime, maintenant, elle est connue, c'est Catherine Fournier, l'État de tout le monde en parle hier.
Ouais.
On parle d'un avocat de formation là, qui donnait régulièrement des chroniques là, et son opinion à la radio, à la télé, qui était politicien, Stéphane Bédard, qui était pour le Parti québécois dans le temps, avocat de formation qui fait fi de l'ordonnance de non-publication puis qui décide de donner l'identité de la victime d'Harold Lebel. Mais comment on peut rater ça?
Bien, il est à la TV, puis il fait une chronique, puis lui, il est au courant, il est dans le PQ à plein. Il a été quand même leader parlementaire, je pense, dans le temps de Mme Marois. Dans le temps de plusieurs leaders péquistes, il était haut placé dans le gouvernement. C'est le fils de Marc-André Bédard qui a le plus long mandat de ministre de justice dans l'histoire du Québec. Il a fait 7 ans et 4 mois, Marc-André Bédard, comme ministre. Alors, je ne sais pas, il l'a échappé. Mais en même temps, ça, là-dessus, dans le dossier de Catherine Fournier, écoute, oui, c'est important pour moi la confidentialité, puis on a violé mon droit à la confidentialité, mais pendant tout le procès, elle se promène avec une caméra, quelqu'un qui la suit, puis qui filme pour faire un documentaire. Moi,
Le processus, je comprends, mais quand il y a une ordonnance de non-publication, puis on l'a su par la suite lorsque le documentaire était rendu disponible, mais je veux dire, tu sais, si votre métier, c'est, je sais pas, moi, vous posez des piscines, puis vous êtes pas au courant de ce
comment
que c'est qu'une ordonnance
ça,
de non-publication,
c'est vrai.
C'est plus pardonnable. Mais quand tu es un avocat de formation, quand tu as régulièrement travaillé dans le public, quand tu as vu des dossiers là, portant sur la loi, puis que tu rates cet épisode-là, ça, je trouve ça particulier. Puis est-ce que le DPCP aurait pu poursuivre
Stéphane
Bédard?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a une violation de...
Ben, puis pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que c'est un avocat?
Je ne sais pas. Il ne l'a pas fait. Puis là, il a fait un chèque de 10 000 $ puis il a dit à tout le monde en parle qu'elle était bien contente, puis qu'elle y pardonnait, puis que c'était correct, puis qu'il avait posé un bon geste. Peut-être que c'est pour ça que le DPCP ne bougera pas, parce qu'il a posé un geste positif, tu sais, puis ils vont dire, bien, finalement, là... Il a payé déjà par sa perte de crédibilité dans ce dossier-là, puis le fait d'avoir donné un montant d'argent, puis d'avoir reconnu sa faute. Puis c'est peut-être pour ça qu'ils font rien.
La justice est douce avec les avocats.
puis les anciens députés, la même affaire. Puis c'est vrai que si ça avait été Joe Blow, peut-être qu'il y aurait eu une autre personne, un animateur moins connu, mais lui,
Il était à Joute.
À LCN, à Joute, oui, puis sorti ça. Mais c'est un secret de Polichinelle aussi que c'était elle. Là. Tu le savais, toi?
Ben moi, je le savais, mais je sais aussi qu'il y a une ordonnance.
Ça fait au moins un an que je le sais.
Moi, il faut que je respecte les victimes d'agressions sexuelles. De un, d'abord et avant tout, il faut les respecter. Puis de deux, quand il y a une ordonnance de la Cour, il me semble que c'est encore plus fort.
As-tu vu le documentaire?
Ben, je l'ai vu des brides, là, puis ma collègue Élodie l'a écouté au grand complet. Puis il semblerait que c'est très formateur là, pour des gens qui ont été...
Ouais, mais je sais pas pourquoi ils mettent pas ça à grande écoute là, à 8 heures le soir.
Ça va se faire.
À un moment donné, là, c'est quoi cette affaire-là?
Mais ça va se faire.
Un site, là, puis ils devraient mettre ça...
À long terme, ça va se faire. Maître Bellemare, pour des dossiers de CNESST, de SAAC, d'IVAC, on peut aller sur votre site, bellemareavocat.ca?
Bellemareavocat.ca, avec un S à avocat, mais de toute façon, Bellemare, avocat Bellemare, en autant que tu mets avocat Bellemare, tu vas tomber
sur... Ou Marc Bellemare.
Même Bellemare, tu vas avoir Bellemare Transport à Yémachiche, puis Bellemare Avocat. Mais on est rendu 5-6 avocats Bellemare, hein, mais il y en a juste un qui est vraiment... qui sort du peloton.
Ah oui! Puis il est tous les lundis sur les ondes de Bellemare.
Tout à fait, tout à fait.
Maître Bellemare, un gros merci, puis on se rejoint lundi prochain.
Plaisir, bonne semaine.
On fait une courte pause, on vient.
Marceau, le soir. Le soir. Depuis 10 ans, les gens de Québec participent à la plus grosse collecte de jouets en ville. Le conteneur de l'amour, où 215 000 jouets ont été récoltés pour la Fondation Renault Jouets. Et on poursuit cette belle collaboration toujours en grand. Le 7 juin prochain, aidez-nous à remplir le Théâtre Capitole en assistant au spectacle bénéfice Le Don de faire rire, présenté par Renaissance. Alexandre Barrette et André-Philippe Gagnon vous feront rire à coup sûr. Achetez vos billets sur théâtrecapitole.com. La Fondation Renault Jouets. Permettez à un maximum d'enfants de sourire à leur tour.
Vous connaissez certainement les suppléments Génacol pour la santé articulaire, mais connaissez-vous le nouveau Génacol Action Rapide? Avec un tout nouveau mode d'action, ce produit naturel procure des effets analgésiques pour soulager temporairement les douleurs musculo-squelettiques. Génacol Action Rapide réduit en seulement 3 heures l'intensité de vos douleurs musculaires et articulaires. Essayez-le, il est en promotion chez Brunet jusqu'au 26 avril. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
Génacol, tu me fais du bien.
Tant qu'à avoir payé pour entretenir votre tignasse, rentabilisez votre investissement en traitant vos problèmes capillaires. Au Salon Ross, des solutions pour la perte ou vos problèmes de cheveux, on en a. Compléments capillaires, mésothérapie, PRP, soins des cheveux et bien plus. SalonRoss.ca. Des cheveux pour toujours.
C'est la dernière semaine pour profiter de la promo Salon chez Enviroconfort. 300 $ de rabais sur les climatiseurs, 500 $ sur les thermopompes et 1000 $ sur les systèmes centraux. Avec les subventions, les rabais des manufacturiers et l'été qui s'en vient, c'est le temps d'en profiter. Avec Enviroconfort.
Les camions RAM sont arrivés chez Capital Chrysler. Le fameux pick-up RAM à partir de seulement 49 995 $. Disponible pour livraison immédiate. Taux de financement à partir de 1,99%. CapitalChrysler.com. Rue Marais, ouvert le samedi.
Fais partie d'une équipe soudée. Soudure JM Chantal, fabricant de conteneurs environnementaux et remorques, est à la recherche de caristes et de soudeurs. Horaires sur 4 jours et demi et régime d'assurance complet. Ça te parle? Postule chez JM Chantal ou via lecarrière.fm.
Le 14 mai prochain, offrez le brunch de la fête des mères au manoir du Lac de l'Âge. Fruits de mer, charcuterie fine et fameuses crêpes au beurre d'érable. Avec une vue imprenable sur le lac, c'est la combinaison parfaite pour faire plaisir à maman. Le manoir du Lac de l'Âge, c'est autre chose.
Mesdemoiselles et mesdames, tous les jeudis, c'est Vino et amis chez Pacini. Amenez votre gang de filles chez Pacini, profitez de la promotion Vino des dames et dégustez d'excellents plats. Pour votre dîner 5 à 7 ou souper entre filles, on vous attend au Pacini Le Bourgneuf et Pacini Sainte-Foy.
On prévoit l'un des plus beaux étés de ma vie.
Dans ma cour, en tout cas.
Grâce à Concept Piscine Design, j'y ai trouvé tout mon ameublement de rêve. Gazebo, sectionnel, ensemble à dîner et des rabais de 15% et plus sur la nouvelle collection. Et j'ai aussi trouvé ma piscine creusée sur mesure, installée par de vrais experts.
La tranquillité d'esprit totale.
Le paradis sur Terre, ça va être chez nous cet été.
Découvrez tous nos produits en magasin ou en ligne. ConceptPiscineDesign.com, installateur de bonheur depuis plus de 30 ans.
102.1, la radio rock de la vieille capitale.
Ça, c'est BLVD.
Boulevard.
BLVD.
Boulevard. 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102.1.
Alors voilà, c'est tout pour nous. Un gros merci d'avoir été avec nous ce lundi soir, 18h58. Je vais devoir quitter les ondes parce que l'eau s'en vient dans les prochaines minutes. Je suis déjà un peu en retard, ce qui est mon habitude. Ah, c'est pas plus grave que ça. Mais bref, vous êtes de plus en plus présents. Merci de nous écrire par texto au 88-971-1021 quand vous avez des commentaires, quand il se passe quelque chose sur la route. Merci beaucoup aux auditeurs qui m'écrivent sur mon Messenger quand ils ont de l'information à me transmettre. C'est toujours un plaisir et c'est très apprécié. On griche plus puis ça paraît. Actuellement sur Québec, c'est 5 degrés. Il pleut et ce sera comme ça pour ce soir, cette nuit ainsi que demain dans la journée. Des averses maximum de 9 pour demain et même demain soir encore des averses. On parle de 5 à 10 mm annoncés pour ce qui est de demain. Pour ce soir, c'est un 5 mm. Et mercredi, ben là, c'est le retour du soleil jusqu'à dimanche minimum. Mais c'est pas moi qui vous le garantis. C'est Environnement Canada. Des fois, ils se trompent, mais cette fois-ci, ils auront raison. Donc, jusqu'à dimanche, ce sera du soleil à partir de mercredi. Donc, c'est tout pour moi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée sur les zones de Boulevard 102.1. Et on se rejase demain, 11h30, avec Élodie et Max pour Marceau le midi. Salut! Bye-bye!
Marceau le soir.
Avec le printemps qui prend sa place, la température qui monte, le fait qu'il fait un petit peu plus clair un petit peu plus tard, c'est encore plus plaisant de prendre la route, lunettes fumées sur le nez et la bonne musique de Boulevard 102.1 dans les oreilles. Solidarité Famille et Sécurité routière vous rappelle l'importance de la courtoisie sur la route et du partage respectueux de la chaussée entre tous les usagers. Ralentissez dans les quartiers résidentiels et les zones scolaires. La sécurité routière, j'en fais mon affaire. Un message de Solidarité Famille et Sécurité routière et de Boulevard 102.1.
Malheureusement, tout n'est pas fait pour durer. Comme les parapluies, les meubles de jardin en osier ou ma relation avec Suzy. Ah, Suzy. Chez Toyota, nous fabriquons des véhicules fiables sur lesquels vous pouvez compter. Et nous avons obtenu le prix du Canadian Black Book pour la meilleure valeur retenue de l'industrie. C'est l'heure de vous aider à en faire plus avec votre argent. C'est l'heure Toyota. Découvrez le Tacoma 2023 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetezmatoyota.ca.
C'est le temps d'inscrire vos enfants au camp de jour Odyssée. Que ce soit Beau-Royal, Baie-de-Beauport ou le site du Collège François de Laval, une foule de programmes sont offerts pour que chaque enfant y trouve sa place. Inscription en ligne dès maintenant au camp-odyssée.com. Camp certifié ACQ.
C'est la dernière semaine pour profiter de la promo Salon chez Enviro-Confort. 300 $ de rabais sur les climatiseurs, 500 $ sur les thermopompes et 1000 $ sur les systèmes centraux. Avec les subventions, les rabais des manufacturiers et l'été qui s'en vient, c'est le temps d'en profiter. Avec Enviro-Confort.
Il fait beau, la neige fond. Le temps des pneus, c'est maintenant chez Kennedy Pneus et Mécanique. Ça vaut le déplacement et vous sauvez de l'argent. Obtenez le financement jusqu'à 12 mois sans frais, sans intérêt, sur tout achat de pneus et réparations mécaniques. Kennedy Pneus et Mécanique, à 15 minutes des ponts.
Un cute, ta playlist, mais elle t'apprendra jamais rien. Qu'elle répondra jamais à tes textos. En tout temps, 971-1021.
C'est pas pour rien qu'Abba, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez Abba, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. AbbaExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. Abba, une solution définitive.
De vendredi à dimanche, c'est le retour de la très attendue vente camion Nutriance chez Dino. 50% de rabais sur le deuxième produit de même format. Cadeau aux 100 premiers clients, plusieurs autres spéciaux en magasin. Faites vos provisions dans toutes les succursales de Dino. Détails en magasin.
Fin de semaine sous le signe de la pluie.
Wow!
90% de risque d'orage, pluie abondante jusqu'à 20 mm.
Hey boy!
Attention, les routes de la région risquent d'être très boueuses.
Bon, ben la gang, on n'a pas le choix d'aller au chalet. Les conditions sont parfaites. On pack le Jeep!
Pendant l'événement Jeep sans limite, profitez d'un taux de financement à partir de 0% jusqu'à 60 mois sur la plupart des Jeep Grand Cherokee 2023. Sur approbation de crédit, détails sur jeep.ca.
Ici, une radio parlée voulait informer plutôt que désinformer. Ici, une radio parlée voulait divertir plutôt que de chialer. Ici, une radio parlée voulait rassembler plutôt que diviser. Ici, une radio parlée voulait aussi jouer le meilleur rock.
Ben là, ça serait plus une radio parlée.
Ben oui, mais avec du rock.
Ben là, ça serait la radio parfaite.
Ben, c'est ça.
Boulevard 102.1, la radio parlée qui joue aussi du rock. Yeah!
Boulevard 102.1.
BLVD 102.1. Vous connaissez le feeling. Les lumières viennent de s'éteindre. La foule se soulève pour en avoir encore. C'est là que la magie opère. Le rappel d'Elo, c'est maintenant. Avec Elodie Derry.
Yeah, yeah! Un petit call à la James Hetfield de Metallica pour commencer ce lundi soir. Après tout, on a besoin d'énergie. Lundi, très, très gris, pas mal d'averses ici et là tout au long de la journée. On attend encore 5 mm supplémentaires de pluie pour la nuit prochaine, puis demain, la pluie se poursuit. Alors, un petit yé-yé, ça fait toujours du bien. En plus, Metallica est d'actualité quand même. Le groupe californien qui voit son album 72 Seasons, qui vient tout juste de sortir, se classer directement en deuxième place du Billboard 200. Metallica qui enregistre aussi les meilleures ventes pour un artiste dans le monde du rock ou du métal depuis 3 ans et demi. Alors, ça se prend. Un petit extrait, s'il vous plaît. Pour la dose d'énergie de début d'émission, bienvenue dans le rappel d'Elo. Mon nom est Elodie Derry. On est ensemble pour la prochaine heure, donc jusqu'à 20h. On n'aura pas de Metallica pour commencer le show. On aura quand même du Linkin Park, du Blink 182, du Pearl Jam. Et voici Muse avec Compliance.
Compliance. We just need your compliance. You will feel no pain anymore. Compliance. Just give us your compliance. We won't let you feel lost anymore. No more self-reliance. Fall into line, you will do as you're told. No choice, fatigue, your blood is running cold. We lose control, the world will fall apart. Love of your life will mend your broken heart. Life lived in fear, you need protection. You're all alone, too much rejection. We have what you need, just reach out and touch. We can save you, we just need your compliance. We just need your compliance. No more defiance.
Sometimes solutions aren't so simple.